La première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire ?
Nous avons découvert un nouveau territoire, ni proche, ni lointain. Tantôt vibrant de jeunesse, tantôt décrépit. Il existe depuis des millénaires et nous survivra très probablement. On l'appelle parfois continent ou péninsule. Il semble s'étendre de la chaîne de l'Oural à l'océan Atlantique. Mais ses frontières ne sont pas clairement définies. Parfois remis en question, il a également inspiré une foi remarquable. Nous avons baptisé ce territoire Eurotopie.
Eurotopie. 16e exposition internationale d'architecture à la Biennale de Venise 2018 jusqu'au 25 novembre. Aujourd'hui, première partie, le pavillon de Belgique. Avec Roxane Le Gren, Chantal de Sonville, Johnny Léa, Rudy Demotte, Alta Creoli, Pablo Loas, Léon Drapeau, Manuel Léon Fonjoul, Pierre Ebeling.
L'architecture segmente l'espace ou l'ouvre. L'architecture sépare ou rassemble. L'architecture inclut ou exclut. L'architecture fabrique de la transparence ou de l'opacité. Ce faisant, l'architecture est un acteur clé de l'organisation du monde physique qui nous entoure. Elle crée, noue ou dénoue les liens entre les individus qui l'habitent.
Eurotopie par Thierry Genicot. Production, Fédération Wallonie-Bruxelles, Cellule Architecture.
Et à une fois, j'entends. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça ?
La prison change.
Très agréable avec le long des étangs.
On appelle une maladie honteuse.
Onzième.
Ces lieux nous parlent.
Chantal d'Assonville, Eurotopie, ça se pense sous plusieurs aspects. L'euro, c'est la monnaie qu'on connaît, c'est l'Europe. Mm-hmm. Topos, c'est le lieu, comme mm-hmm. Utopie. Mm-hmm. C'est le titre et c'est le thème de ce qui est présenté dans le pavillon de la Belgique à la Biennale de Venise. Avez-vous été dans le pavillon ?
Bien sûr, j'ai non seulement été dans le pavillon, mais nous avons aussi organisé l'appel à projet pour le choix du commissariat de ce pavillon. Et je dois dire que cette proposition, parmi une vingtaine d'autres, a vraiment fait très rapidement une unanimité à l'intérieur du jury et a suscité beaucoup d'enthousiasme. Alors je pense que cet enthousiasme, il vient de deux aspects de la proposition. Un premier aspect qui devient un peu récurrent en ce qui concerne la Fédération Wallonie-Bruxelles à propos du pavillon belge à Venise, c'est la confiance que nous souhaitons accorder à de jeunes équipes. Depuis quelques éditions, systématiquement, on a fait le choix de proposer des équipes assez jeunes, avec donc des discours qui appartiennent à une génération de jeunes architectes sur la manière dont ils abordent la question de l'architecture dans le discours. On voit d'ailleurs dans cette biennale, et depuis quelques années aussi, de moins en moins de projets montrés en tant que tels, et davantage de propos, de discours sur la question de l'architecture et de sa place dans le collectif, dans l'espace public, dans les politiques.
Eurotopie is a common dream. It is the last utopia. The hope for shared ambitions.
Alors la deuxième chose qui nous a vraiment séduit dans ce projet, c'est aussi le fait qu'il dit combien l'architecture témoigne d'une position politique dans l'espace. L'architecture occupe l'espace et, ce faisant, au travers de l'analogie évidemment des bâtiments utilisés par la Commission européenne à Bruxelles, cette manière d'occuper l'espace dans une ville, mais ça vaut pour tout ce qui est construit en quelque sorte, est aussi une manière d'ouvrir, de fermer, de dialoguer, de ne pas dialoguer, de fabriquer de la démocratie ou de ne pas fabriquer de la démocratie. Donc ça, je pense que c'est un peu leur sujet de recherche.
Bonjour, merci d'être venu.
Avec plaisir. Nous y sommes en plein cœur du quartier européen. À la bonne heure en plus.
Il est 9h30.
Oui. Il se passe plein de choses.
Oui. Par exemple, le temps d'attente pour les piétons est long.
Est très long.
Par rapport aux voitures.
C'est vrai, parce qu'il y a énormément de voitures. Mais on voit beaucoup de piétons quand même se balader, rentrer dans les bâtiments. Il y a de l'activité.
Alors on se trouve à la sortie du métro Schumann, devant le Berlaymont. Et peut-être, Roxane Le Graine, de décrire ce que nous voyons pour les rares auditeurs qui ne connaissent pas le lieu où nous sommes.
C'est ça. Assez fort impressionné par ce bâtiment qu'il a, quand on le regarde comme ça, il est courbé. Si, ce qui était très important pour nous, notamment dans cette recherche, c'est qu'on est mis, on est très fort mis à distance de tous ces bâtiments, et notamment du Berlaymont.
Eurotopie est un rêve commun.
On se promène le long d'un garde-corps qui est quand même relativement élevé et qui, quand on regarde un peu plus précisément, ce n'est pas un bloc, il est coupé en angle. Donc on ne peut même pas poser quelque chose dessus. C'est fait exprès pour soit longer le trottoir, soit pour vraiment protéger et distancier du bâtiment. Donc c'est assez particulier quand même comme dispositif. Et puis il n'y a que certains endroits où on peut s'approcher de ce bâtiment. Voilà. Donc, et ça c'est le cas pour le Berlaymont, mais c'est le cas pour plusieurs de ces bâtiments. Il y a toujours des dispositifs de mise à distance. Ici c'est un garde-corps, parfois ce sont des grilles, de la végétation. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup et qui est quand même assez significatif dans ce quartier. Et alors le Berlaymont, à l'époque, était quand même accessible. On pouvait accéder au Berlaymont en voiture, donc on pouvait s'arrêter devant. Et là, aujourd'hui, ils ont rendu toute cette zone piétonne, qui est probablement aussi un dispositif de sécurité. Les voitures y accèdent par l'arrière, par un sous-sol. Donc voilà, ça a fortement changé. Et donc on se retrouve, quand on descend quelques marches, face à une grande esplanade devant ce bâtiment qui en impose dès lors encore un peu plus.
Et si le milieu culturel s'engageait un peu plus dans la politique ?
What if someone told you that they found the keys to build a new narrative about Europe ?
Et si on vous disait qu'on avait trouvé les clés pour construire ce nouveau récit européen ?
What if you decided to trust us when we say that we discovered a new world, that we discovered Eurotopie?
Et si vous décidiez de nous faire confiance lorsque nous vous disons que nous venons de découvrir un nouveau monde, que nous avons découvert Eurotopie?
Imagine seeing all of society as you know it, all the privileges that you have destroyed by your lack of involvement. Imagine that one day a European civil war occurred. Nationalists defending the myth of people, nations, identities, and supranationalists who were fighting to change those illusions.
Je m'appelle Johnny Leia.
Johnny
Leia. Je suis architecte chez Tromnovel, qui est un bureau bruxellois d'architecture, diplômé il y a à peine 3 ans. curateur absolument de ce pavillon pour la Belgique pour cette année-ci avec mes collègues et Roxane Le Grel.
Quand on entre dans le pavillon belge, on est face à un grand gradin circulaire en bois qui a été peint tout en bleu, un bleu qui rappelle les couleurs du drapeau européen, le bleu du drapeau européen, et qui vient vraiment s'insérer partout dans le pavillon, donc qui va jusque dans les niches, jusqu'au tout au fond, et qui, dès qu'on rentre, on se retrouve confronté presque tout de suite à la première marche.
Comment garder l'Europe, ou comment transformer l'Europe, ou comment impliquer plus le monde culturel dans la construction du projet européen ? Grande ambition. Ouais.
Imaginez que la société telle que vous la connaissez, tous vos privilèges, soient détruits par votre propre manque d'engagement. Imaginez qu'un jour, éclate une guerre civile européenne. Les nationalistes, défendant les vieux mythes des peuples, des nations, des identités, combattent les supranationalistes qui luttent pour se détacher de ces illusions.
Now, you are in Eurotopia. This is a new land.
Ce qu'on propose, c'est un projet, une fiction. C'est donc réussir à dépeindre, à s'engager, à construire quelque chose qui sera critiqué, mais qui sera un début. Et non pas l'absence ou juste le désintérêt. Et donc ça passe pour nous par le quartier européen, qui est la base de notre projet. Ce quartier qui est soit méconnu ou peu aimé par les Bruxellois, et qui pourtant fait partie intégrante de Bruxelles. Et Bruxelles a réussi à intégrer en fait une organisation aussi grosse à l'intérieur de sa structure propre. Et les deux se nourrissent, et il y a déjà les clés de cette construction européenne présente à Bruxelles.
Pour nous qui nous occupons d'architecture et qui tentons de soutenir une politique publique de l'architecture, ça accompagne le discours qui était également le nôtre, c'est de dire combien l'architecture est importante dans la mesure où elle fabrique un espace qui concerne l'ensemble des citoyens, l'ensemble des usagers, et donc elle dit quelque chose dans ce qu'est notre société d'aujourd'hui. Ça n'est pas simplement un acte de construction, c'est un acte de politique dans l'espace.
Il y a moins de démolitions qu'on pourrait le penser. Il y a autant de démolitions qu'il y a d'immeubles de bureaux, mais ce qui n'est pas la faute en fait des institutions européennes, parce que comme il faut le rappeler, les institutions européennes se sont établies là où des promoteurs ont laissé des bureaux vacants.
Un bâtiment, nous explique le livre qui accompagne l'exposition du pavillon La Belgique à la Biennale d'architecture à Venise, un bâtiment érigé sans objet en 1958.
C'est ça.
Sans savoir que ça allait être l'Europe qui allait les occuper. L'Europe a en fait longtemps été un locataire et là commence seulement à pouvoir être propriétaire de ses propres locaux.
Des sociétés privées qui ont construit ce bâtiment en se disant qu'ils allaient accueillir soit des bureaux, soit des autorités belges, soit l'Europe. Mais à ce moment-là, on ne savait pas encore que la capitale européenne serait à Bruxelles. Donc voilà, ça a été un peu un pari à cette époque-là, parce que beaucoup de bâtiments ont été construits à ce moment-là, sans savoir exactement quel programme ils allaient accueillir. Et donc ça rend ces édifices relativement modulables aussi.
Roxane Le Grel.
Ils peuvent accueillir différentes fonctions, même si certes, la plupart ont quand même été conçus pour accueillir des bureaux. Mais donc c'est pour ça que par après, au fur et à mesure des années, des dispositifs de sécurité ont été rajoutés. Donc là, par exemple, on voit une grande paroi vitrée qui, de nouveau, nous met à distance par rapport au bâtiment. Et donc, on a eu plusieurs anecdotes en faisant ce travail, en disant qu'ils veulent faire un petit pavillon d'entrée pour distancier les personnes encore une fois de ce bâtiment. Donc vraiment avoir un pavillon d'entrée de sécurité pour être sûr que les gens qui entrent effectivement dans le bâtiment principal ne risquent rien. Et pareil pour en dessous, le métro passe en dessous du Berlaymont, et le train d'ailleurs aussi. Et donc là de nouveau, ils ont mis en place des dispositifs souterrains de sécurité pour être certain que si quelque chose explose en souterrain, le bâtiment ne bouge pas. Donc il y a plein d'anecdotes comme ça dont on n'est pas conscient en tant qu'habitant bruxellois ou en tant que citoyen européen, disons, mais qui existent, qui sont là vraiment pour sécuriser tout ce quartier.
Eurotopie is a meta-nation. It is beyond nations. It embodies an emancipatory project, the only narrative that is able to counter nationalism.
Eurotopie est une métanation au-delà de la nation Elle incarne un projet émancipatoire, le seul récit capable de faire face au nationalisme.
Rudy Demotte, quel regard portez-vous sur le pavillon de la Belgique ?
D'abord, c'est un pavillon absolument extraordinaire, déjà par son enveloppe externe. Quand on pense qu'il a été conçu au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, dans un style qui allait être emprunté par le restant de l'Europe une trentaine d'années plus tard, c'est vraiment très avant-gardiste. Maintenant, nous parlons d'architecture. Et l'intérieur ramène pour moi à l'essentiel. Devenue une agora symbolique d'un espace public qui doit exprimer une vision utopique de l'Union européenne. Ce brassin intérieur sous forme d'un amphithéâtre démocratique, c'est vraiment un tout qui ne peut pas laisser indifférent, même s'il est simplissime dans son expression.
Bâti sur les cendres du totalitarisme, Eurotopie tourne en ridicule le nationalisme méthodologique et l'État-nation en déliquescence.
Alors quand vous regardez le monde tel qu'il est, il est de plus en plus un monde de confrontation, de dureté du propos, de repli sur des espaces de rétraction, comme si on devait se cacher des autres, se protéger des autres, alors que l'histoire de l'humanité était exactement le contraire. Ce sont les brassages de culture, ce sont les apprentissages multiples. Et donc il faut quelque part qu'un signal d'alarme, qu'il y ait des lanceurs d'alerte.
Eurotopie déconstruit l'idée selon laquelle les sociétés sont créées par les nations.
L'architecture est un des arts qui exprime l'espace public. Et donc une certaine forme d'utopie, l'architecture est là pour exprimer l'utopie. Et l'utopie d'une démocratie qui tient compte des erreurs du passé, d'une démocratie qui est prête à s'améliorer, surtout quand les choses ne vont pas bien, eh bien ça me parle.
Vous êtes maintenant en Eurotopie.
In Brussels.
Nous croirez-vous si nous vous assurons que l'Eurotopie existe et que nous avons trouvé l'une de ses manifestations à Bruxelles?
That this new land is hidden everywhere, in every country, and just needs to be woken.
Que ce nouveau territoire est caché partout et ne demande qu'à être réveillé.
Would you believe us if we said that in fact you just entered Eurotopie?
Nous croiriez-vous si nous vous disions qu'en fait vous êtes en Eurotopie?
Roxane Le Grel, j'entends deux mots à travers ce que vous dites. D'un côté, mise à distance. Et d'autre part, sécurité.
Il y en a d'autres aussi. C'est vrai que ceux-là sont un peu les premiers qui sautent aux yeux. Après, nous, si on a voulu s'intéresser à l'Europe aujourd'hui, c'est pour des questions politiques aussi. Le Brexit, notamment. On a tous les quatre quand même étudié à Bruxelles. On connaît tous les quatre très bien Bruxelles. Et pourtant, le quartier européen a toujours été un quartier auquel on s'est peu intéressé, dans lequel on a peu été, et qui, de manière générale, par les architectes, est pas très très bien considéré. Et donc on s'est dit, mais aujourd'hui, voilà, on va aller voir ce qui s'y passe, on va s'y intéresser, on va voir ce qu'il y a de positif dans ce quartier finalement, et ce qui fait qu'on y va ou qu'on n'y va pas, quelles sont les raisons. Et donc justement, c'est pour ça qu'un peu plus tôt, en arrivant, je vous ai dit, on est là au bon moment, parce que, voilà, le matin, il se passe des choses, alors que quand on revient vers 11h, voilà, les grandes esplanades sont vides, le trafic a fortement diminué et donc l'activité est moindre. Et c'est ça qu'on a pu identifier aussi. Donc on parle de sécurité, mais on peut aussi parler de temporalité très très différente dans ce quartier. Ça vit à certains moments, ça se vide à d'autres. C'est assez particulier dans ce sens-là aussi.
Alda Gréoli, vous qui êtes ministre de la Culture, Fédération Wallonie-Bruxelles, quel regard portez-vous sur le pavillon de la Belgique ?
Alors c'est d'abord un regard d'émotion, si vous me permettez, puisqu'il nous interpelle sur l'Europe à partir de Bruxelles. Et ça, c'est vraiment déjà tout à fait intéressant. En ce moment où on a eu des appels de beaucoup de dirigeants européens en disant « reconstruisons l'Europe à partir de la culture ». Le pavillon belge nous réinterpelle sur notre rapport à l'Europe à partir du cœur de Bruxelles, puisqu'il est au cœur du pavillon belge. Et ça, c'est déjà d'abord une émotion.
On est presque tout seul sur cette esplanade du Berlaymont, avec quelques militaires, bien sûr.
Et le drapeau européen,
qui est très présent ici aussi. D'ailleurs, il fait partie de l'emblème de la Commission européenne, qui est situé dans le Berlaymont notamment. Et puis, on voit des drapeaux aussi tout le long de l'édifice. Donc oui, le drapeau européen est quand même fort présent pour marquer une identité européenne dans le quartier.
Pouvez-vous décrire la scène qu'on voit là ?
Alors là, on est face à quatre militaires qui arpentent l'esplanade et un monsieur qui, avec une veste fluo, qui s'occupe apparemment du nettoyage. Il a l'air d'aller ranger ses affaires quelque part, on ne sait pas trop où, dans un petit pavillon en verre. Et voilà, et les militaires passent. Ils font leur ronde. Les sirènes aussi sont assez présentes dans le quartier. Depuis qu'on est arrivé, il y en a quelques-unes, on en a entendu quelques-unes.
L'Europe serait-elle en état d'urgence ?
Nous, on a quand même réalisé ce projet pour ça, en disant qu'il fallait s'engager pour l'Europe, en disant qu'il fallait se réveiller et voir toutes les qualités. Après, c'est pour ça aussi qu'on a voulu réaliser un projet qui est politique, certes, mais positif aussi, en essayant de s'axer sur les choses qui sont positives plus que sur celles qui sont négatives, qui sont pour l'instant en tout cas beaucoup plus présentes. Après, notre point de départ est quand même le quartier européen à Bruxelles et est quand même l'architecture de ce quartier européen. Après, quand on parle de l'Europe aujourd'hui, forcément, on se positionne.
Deuxième émotion pour moi, il nous interpelle sur les espaces et la prise par le citoyen des espaces de liberté pour construire le dialogue et pour construire la démocratie. Et donc, je vraiment le travail de ces quatre jeunes architectes qui ont travaillé en plus avec un philosophe, avec un musicien, avec des historiens, est vraiment quelque chose qui vient titiller le fait que la démocratie, ce n'est pas un bâtiment. La démocratie, c'est l'occupation des espaces, y compris dans le bâtiment.
Roxane Le Grel, comment avez-vous travaillé ?
Une fois qu'on avait mis en place tout un dossier de recherche, pour le dire comme ça, pour lequel on s'est aussi fait beaucoup aider par des étudiants qui venaient du matin au soir voir ce qui s'y passe, qui prenaient des photos, qui ont fait un relevé de plein de dispositifs aussi. Voilà, nous, à ce moment-là, on en a ressorti plusieurs points importants, dont la sécurité, dont la mise à distance, dont la temporalité, dont les règles urbanistiques, etc. Et une fois qu'on avait constitué ça, on a quand même travaillé avec plusieurs personnes pour ce projet, bien on a donné cette matière-là à tout le monde en disant, voilà, maintenant, chacun à travers son propre médium, donc la photo, l'écriture, pour nous, c'était l'espace et donc le pavillon. Donc on a tous utilisé notre médium pour raconter cette histoire ou pour transmettre cette recherche, pour arriver finalement à un pavillon composé d'un énorme gradin bleu et un catalogue avec d'une part une fiction qui reprend des anecdotes, qui décrit les bâtiments, etc. Et une introduction qui, elle, est un peu plus théorique et qui reprend peut-être point par point les choses qu'on a trouvées, nous, très importantes ou intéressantes par rapport plus à l'architecture de ce quartier européen à Bruxelles.
Je me suis laissé dire, Roxane Le Grel, que le pavillon de la Belgique à la Biennale de Venise va être occupé dans les mois qui viennent par des rencontres.
L'idée, en créant une espèce de grande agora, ce pavillon prend son sens quand il est occupé, quand il est utilisé à ces fins-là. Là, plusieurs choses commencent à se dessiner. On commence même à avoir des demandes d'autres personnes de l'extérieur en disant « Voilà, il paraît que vous avez mis en place ces choses-là. » Donc, c'est clair que nous, on ne demande que ça, que le pavillon soit utilisé. On l'a créé aussi dans cette idée-là, dans l'idée de l'offrir à ceux qui veulent, pour qu'ils puissent l'investir, pour qu'ils puissent en prendre possession.
Une des grandes qualités du quartier européen, c'est que, contrairement à beaucoup d'organismes supranationaux, ce n'est pas une ville loin des autochtones. Non, c'est une série de bâtiments qui sont connectés avec ses habitants. Et ce n'est pas par accident, c'était une volonté des premiers constructeurs de l'Europe d'avoir une ville dans la ville, un peu comme est Bruxelles.
Johnny Lea.
Ce qui nous dit beaucoup de choses sur, notre citoyenneté, ce qu'est l'Europe dans ce dialogue-là. Pour l'instant, c'est encore un travail en cours, et si on ne s'implique pas plus en tant qu'architecte et urbaniste, on tend à ce que la cité se referme et se replie. On les a presque tous visités, on en a appris beaucoup, beaucoup de choses, et il y a des qualités insoupçonnées dans la plupart, ne fût-ce que dans leurs connexions, parfois souterraines, dans les déplacements de programmes. Donc ce sont ces lieux un peu génériques, au fond, ce qui est un peu étrange, parce que tout le monde espère trouver dans le quartier européen Rome. Rome est morte, ce n'est pas Rome. Non, ce sont des fonctionnaires qui travaillent pour cette Europe.
Pierre Ebeling.
C'est un pavillon très troublant parce qu'en réalité, il dit que la langue, c'est l'espace. Puisqu'en fait, comment est-il assemblé? Il a un épicentre, un petit pavillon d'entrée qui précède une très grande salle qui a elle-même deux salles latérales et une petite salle frontale. Et donc, c'est une forme en croix. Alors, l'épicentre est au centre de la croix et à partir de là, une série de circonférences se développe en gradin pour former finalement l'enceinte du Parlement européen dans sa métaphore, c'est bleu et c'est l'hymne à la joie déformé au niveau sonorité qui joue un rôle spatial. Le son joue un rôle spatial très important. Il se fait que, pour la même raison, la parole qui est placée au centre, donc si vous vous mettez au centre, je ne sais pas si vous avez fait l'exercice, mais sinon faites-le, vous allez au centre, vous parlez, la voix vous revient avec un impact presque violent. Vous vous déplacez de 1 demi-mètre, c'est terminé.
Pablo Loas.
Drôle de concours de circonstances cette année, plus encore que les années précédentes, c'est que non seulement le pavillon belge, les curateurs sont d'anciens étudiants et très récents, ce sont des étudiants qui ont été diplômés l'année dernière ou il y a 2 ans, mais plus encore, il y a toute une série d'autres pavillons dans lesquels on retrouve des anciens étudiants de la fac d'archi. Par exemple, le commissaire du pavillon roumain est quelqu'un qui a étudié son master chez nous, Roméo Cook. Le co-commissaire du pavillon luxembourgeois, Philippe Nathan, c'est aussi un ancien étudiant de la fac d'archi de l'ULB, ou la Cambre ou Horta, qui étaient les deux écoles dont on est issu. Un groupe d'étudiants à nous vient d'être distingué dans le pavillon vénitien parce qu'ils ont travaillé sur un projet de reconfiguration du parti de Venise. Et donc, ça témoigne, outre, alors c'est un peu pédant de dire ça, mais de la vivacité de notre faculté, de la critique et de l'esprit critique qu'on parvient à inculquer ou à développer chez les étudiants, parce que être commissaire, c'est quand même un travail d'analyse, c'est un travail de parti pris, et donc tout architecte n'est pas destiné à prendre une position comme celle-là. Et donc les architectes, chez nous, on essaie de leur donner évidemment les outils pour pouvoir être des architectes dans tous les sens du terme, mais en plus pouvoir s'extraire peut-être presque de la réalité quotidienne et prendre un parti qui est celui de Eurotopie ou sur le pavillon roumain, il fait toute une étude aussi rétrospective sur tous les modèles d'urbanisme qui ont été portés en Roumanie sous le régime Ceausescu, et de voir comment ça témoigne d'une série d'évolutions de la société, presque indépendamment même du fait que ce soit porté par un régime dictatorial, donc très intéressant.
Léone Drapeau, une des 4 curatrices. Voilà. On est 3 curateurs qui appartiennent à l'agence Trom Novel, un jeune bureau belge, dont vous avez parlé à Johnny, il y a Manuel Léon Fanjoul aussi, et on est associé avec Roxane Le Grel, qui est architecte aussi et historienne de l'art.
Enlever son portable, le déposer dans un petit panier, et puis passer le sas de sécurité. Et la carte d'identité vient juste après.
La question que nous, on a voulu mettre sur la table, en tout cas, c'était celle d'un appel à l'engagement en faveur de l'Europe.
Moi, j'ai toujours tendance à dire que l'architecture est, quelle qu'elle soit, presque, je caricature du dessin d'une salle de bain à, évidemment, le dessin d'un habitat collectif au dessin de la ville, c'est toujours un acte politique, l'architecture. Donc, il n'y a pas à mégoter, on peut considérer l'architecture comme un fait technique où on apprend, mais pour nous, c'est essentiel de considérer l'archi comme quelque chose de questionnant, quelque chose qui incarne les rapports de force dans la société, et donc à propos desquels il ne faut pas être passif, il faut prendre parti.
Justement, toute la schizophrénie auquel est confrontée l'Europe, c'est qu'elle est de plus en plus sur des logiques sécuritaires, et en même temps essaye d'être ouverte. Donc cette schizophrénie s'exprime aussi dans l'architecture. Donc tout est prétendument transparent, et en fait tout est miroir. Mais il y a ce défi des architectes qui a été de quand même essayer de sembler ouvert alors qu'on leur demande de construire des bunkers. Et donc il y a une vraie lutte en fait qui est en train de se faire, pour laquelle on doit réussir à trouver des solutions, cette lutte face à, oui, aux logiques sécuritaires. Non, les murs de verre restent des murs, comprendre comment est-ce qu'on peut les optimiser.
Papuloas.
Donc le bâtiment, il a une disposition très classique, avec des axes. Ils jouent, les commissaires, donc, de cette axialité et d'un caractère presque voilà, classique et presque des valeurs occidentales de l'architecture pour les surjouer dans cette sorte de forum. Un forum un peu muet puisque on ne sait pas si tient des choses, si tient pas des choses. Et donc ça à la fois questionne le bâtiment, ça questionne l'arène, ça questionne, je sais pas, la politique aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la société dans laquelle on défie quiconque de prendre un rôle décisionnel et où on aspire à une sorte, et je pense qu'il y a beaucoup de mystification là-dessus, à un collectif qui, par magie, parviendrait à conduire à des décisions sages et concertées. Je suis malheureusement, moi, un peu...
Léon Drapeau.
Le quartier européen à Bruxelles, il est là, il existe, tout le monde le connaît, il y a quelque chose de très tangible. Il est mal aimé, il est très critiqué. Mais à part ça, les autres Européens, ils n'ont pas forcément de compréhension de ce qu'est l'Europe dans son ancrage territorial, dans sa symbolique d'une part, mais aussi dans la manière dont l'Europe se manifeste dans l'espace. Et le fait que ce soit aussi évident et clair et perceptible à Bruxelles, ça nous a donné envie de nous intéresser à ce quartier, pour des raisons également politiques en quelque sorte, parce qu'on est une génération qui a envie de s'engager. Voilà, nous, on trouve que l'Europe, après le Brexit, ça nous a fait un choc, ça nous a fait peur, ça nous a montré aussi à quel point on connaissait peut-être pas nos concitoyens, mais nos concitoyens européens, et qu'on comprenait pas cette décision du Brexit. Et donc suite à ça, nous, on a voulu, à notre manière, avec nos outils, qui sont nos outils d'architectes, inviter à continuer à construire ce projet commun. Voilà.
Par rapport aux autres pavillons qui prétendent montrer 36 000 trucs, 36 000 planches avec des détails d'architecture, se poser un moment et se dire, je sais pas à quoi bon.
Pavillon de la Belgique, Pierre Ebeling, où vous animez une table ronde autour d'un ouvrage dont vous êtes éditeur.
Elle fait suite à une exposition qui portait un titre anglais qui s'appelle Network Lifting the Curtain, qui est apparue il y a 4 ans, que j'avais découvert à Zater et qui était en off, qui n'était pas du tout en in. Et c'était un collectif de 6 collectifs appartenant à divers pays, hein, puisqu'on y retrouvait à la fois l'Autriche, à la fois la Hongrie, la Tchéquie, la Pologne, la Croatie, un groupe transversal qui s'appelle Trace. Et donc, quelle était leur posture? En fait, ils disaient, si on observe les réseaux entre architectes pendant 100 années, qu'est-ce qui émerge? Alors, il naît une nouvelle historiographie, donc un patrimoine de questionnement sur l'histoire l'histoire qui a eu un, comment dirais-je, divers rabots à travers le XXe siècle, hein, des rabots politiques très puissants. Il se fait qu'il y a un petit paradoxe dans le titre, puisqu'on parle de « lifting the curtain » et donc on imagine bien le rideau de fer. Et ce rideau de fer ne traduit finalement que de 48 ou 47 au début des années 90. Finalement, sur 100 ans, ça représente, c'est la portion congrue. Par contre, elle a marqué les esprits et elle a formé, comment dirais-je, un imaginaire dans lequel, en effet miroir, la communauté ouest de l'Europe peut se mettre à réfléchir en réalité. Et donc le livre propose des nouvelles approches historiographiques. J'avoue que toute ma culture de l'histoire de l'architecture, Frampton, Benevolo, Hitchcock, je pars des prémices, tout ça est relativisé par les modes opératoires des penseurs centre-européens. Et c'est pas pour rien que ce sont des collectifs de collectifs, en fait, parce qu'il n'y a pas de support d'État pour faire ce genre de choses. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Donc c'est un ouvrage qui nous a pris 4 ans. Donc ce n'est pas un catalogue d'une exposition, ça n'a rien à voir. On a tout recommencé à zéro. Donc il y a 7 thématiques pour dire qu'est-ce que c'est un réseau. Par exemple, les revues, ça c'est facile. La recherche, c'est un peu plus difficile. Les séries d'événements, les architectes à l'import, à l'export, les personnalités qui en eux-mêmes sont des foyers de réseaux exceptionnels. Hein. On connaît, très très bien Adolf Loos, par exemple, dans l'histoire de l'architecture. Mais il y a une série de Polonais, de Croates et de Hongrois qui ont marqué complètement les rapports Est-Ouest, par exemple, sauf qu'ils sont omis dans nos propres livres. Donc on a une reconfiguration de l'histoire qui est assez intéressante. C'est pas pour rien qu'un type comme Ivan Krashtev, hein, donc le plus grand historien du XXIe siècle sur l'Europe, est bulgare. Donc il s'est d'abord fait reconnaître aux États-Unis avant que l'Europe de l'Ouest comprenne le sens du travail de Krashtev, qui questionne fortement, dans un livre qui s'appelle After Europe, hein, la crise de l'Europe, ça a été traduit en français récemment. Très récemment. Et donc, on retrouve dans la thématique du livre qu'on a produit et dans le travail de Krashtev, j'ai tout fait pour qu'il vienne, mais je l'ai appelé dimanche, enfin, j'ai obtenu son adresse dimanche, donc c'est un peu cool. Mais donc, il m'a répondu très cordialement qu'il était à New York en conférence. Mais donc, je pense qu'on va essayer de le faire venir en Belgique parce que l'événement qu'on a créé ici va se poursuivre, enfin, que le pavillon belge, ça n'a rien à voir avec moi, ça c'est les curateurs et la communauté française, Cellule Archi, ont mis en place, va se poursuivre à Bruxelles. Mais ce questionnement sur l'histoire, je viens de le dire à travers l'ouvrage qu'on a produit ou à travers Krashtev, c'est une puissance de questionnement pour nous. C'est une aubaine absolue. À un moment donné, les auteurs font apparaître pour pouvoir résister à un état dans lequel la pensée est, comment dirais-je, n'est pas libre pour différentes raisons. On connaît très bien les textes de Vaclav Havel sur les situations qui étaient celles des auteurs tchèques, par exemple, dans les années 60-70. Donc ici, une auteure, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle creuse sur la question de l'expérimentation. Elle dit Kant, donc une série d'auteurs hautement politiques se sont abstenus de tout effort politique, de tout message politique, pour pouvoir faire de la recherche en matière d'architecture, développer ça, parce que pour faire de la recherche, on a besoin de l'État. Donc évidemment, pour aller chercher des capitaux à l'État, pour faire en sorte qu'on accède à des espaces de liberté résistants au même État qui vient de financer, eh bien ça ressemble étrangement à des postures qu'on trouve aujourd'hui à l'Ouest, au vu de l'évolution politique liée à la perte de pouvoir très important du politique au profit des GAFA, du néolibéralisme et de cette étude de posture. Donc aujourd'hui, la dissidence, l'architecte est dans une position assez particulière en Occident, enfin il l'a toujours été, mais en Occident aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il est obligatoirement par la commande un outil de l'argent et donc des axes de pouvoir, et à la fois c'est un résistant par nature puisqu'il invente un monde, il le projette dans le futur. Donc il se produit un effet singulier, parfois schizophrénique, qui est d'avoir une posture de transcendance du réel, hein, puisqu'il propose un autre réel, et donc parfois des propositions transgressantes certains d'entre nous assez puissantes, et donc il se fait que ça passe par une commande officielle. Donc je trouve que la posture prise par cette chercheuse qui a creusé cette question de la recherche et la position et le rapport entre la recherche et position politique est un champ de questions pour l'Europe occidentale très, très intéressant. Voilà un exemple.
Alta Creoli.
Quand on repense le bâti à vocation sociale, vraiment, je pense que nous devons nous réinterpeller nous-mêmes sur la perte de sens du bâti à vocation sociale aujourd'hui. Le bâti à vocation sociale n'est pas un bâti utilitariste. C'est un bâti qui construit aussi de l'émancipation. Il y a vraiment un enjeu.
Mon prénom c'est Manuel et mon nom de famille c'est en deux parties, c'est Léon Fanjul. Architecte depuis 2 ans, j'étais à La Cambre à Bruxelles et là depuis je travaille à Charleroi dans l'équipe du Bauermeister qui s'occupe de planification urbaine.
Ce terme Eurotopie, c'est l'utopie européenne. On ne la définit pas, mais on essaye de mettre sur la table un certain nombre d'outils qui peuvent inviter à construire cette Eurotopie. Et donc ça, on a fait avec plusieurs artistes, on a fait avec un philosophe, Bruce Bégout, qui lui a écrit la nouvelle de l'Eurotopie. On a travaillé avec Philippe Braconnier, qui est un photographe montois. Claire Trottignon, qui est une artiste française, et elle qui a fait des collages à partir de fragments du quartier européen. Et Sébastien Lacomblé, qui est un artiste également, qui travaille avec le Bauermeister de Charleroi, et qui, lui, nous a aidés pour toute l'identité, la cohérence. En fait, c'est comme si on avait fait un voyage, en fait. C'est comme si on avait tous embarqué ensemble avec nos outils, nos crayons, nos carnets sur un bateau. On est arrivé à Bruxelles. Ce monde merveilleux, c'est l'Eurotopie. Qu'est-ce qu'on peut en ramener? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Et on a chacun, avec nos médiums, fait un relevé de cette Eurotopie. Et c'est ça qu'on propose. Le carnet de voyage que vous avez peut-être vu, qui est le livre argenté, c'est ce carnet de voyage avec toutes ces traces fantastiques de cette terre. Et finalement, l'objectif pour nous, c'est de dire l'Eurotopie existe, venez, allons-y, construisons-la ensemble, on a les outils pour le faire. Léon, drapeau.
Je pense que le pavillon de la Belgique est une métaphore de la manière dont les bâtiments de l'Union européenne ont pris place dans cette ville en faisant fi
Chantal de son ville.
De ce qui préexistait, en poussant un peu les murs ou en traversant les murs. Hein, on voit ici l'hémicycle, puisque c'est une construction d'un hémicycle dans ce pavillon qui est en fait un bâtiment en croix.
Je suis de Charleroi à la base et en arrivant à Bruxelles, là où j'ai passé 7 ans en fait, je m'en suis un peu rendu compte en travaillant sur ce projet. En fait, j'ai toujours habité à proximité de ce quartier, donc c'était vraiment un quartier par lequel je passais. Même pour des jobs étudiants, etc. Donc je traversais. Et déjà à l'époque, donc il y a peut-être maintenant 3-4 ans, j'ai commencé à m'intéresser à ce quartier, à cette architecture qui était assez critiquée ou enfin qu'on trouvait peu intéressante. Et de ça, en fait, c'était assez intéressant de voir cette espèce de catalogue de façades vitrées, de bâtiments qui devaient tous être différents, mais tous être des immeubles de bureaux et de voir comment ils étaient aussi différents et de réfléchir à ce qu'on pouvait trouver en fait d'intéressant dans ce quartier. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose aussi qui nous a guidés.
Pierre Ebeli.
Un système où la parole joue un rôle important et donc il parie sur des débats comme celui qu'on m'a autorisé de faire autour de cet ouvrage titanesque, en tout cas pour tout ce collectif. Et donc il y a une suite de débats qui ont cours dans cette enceinte. Donc l'enceinte dit simplement « je suis un lieu de parole » et après voyons comment va fonctionner la parole. C'est un lieu qui a un réel capital dans une biennale, c'est vraiment une très grande singularité, et c'est une très grande difficulté. Je trouve qu'ils ont osé un pari assez fort. Il faut que les paroles soient fortes, bien entendu. Voilà, on a eu de la chance tout à l'heure parce qu'à un moment donné, c'était un moment d'état de grâce. Il y a plus, tous les gens qui rentraient ne sortaient plus, donc parce que le niveau des orateurs était très élevé. Donc je pense que c'est au fond un modèle assez interpellant aussi parce qu'on sait que la Biennale de Venise est devenue un lieu de consommation. Vous savez que c'est devenu une société privée aujourd'hui. Et donc, observons que c'est donc une société privée qui labellise la bonne architecture et non plus des dispositifs liés à des points de vue moins spéculatifs, je vais dire comme ça. Et normalement, on sait que pour tout qui a été commissaire, parce que j'ai été en 96, tout qui a occupé ce pavillon, on connaît le chiffre, c'est chacun passe 6 minutes dans un pavillon maximum. Donc ici, ils prennent le pari de sédentariser par les débats certains passagers du pavillon.
Ce qui est vraiment important, c'est que l'on voit qu'il y a aussi dans le rayonnement de la culture un rayonnement intérieur aux frontières et extérieur aux frontières. Et que la Flandre a ce dynamisme au travers du Vlaams Institute Architecture, et donc qui, en fait, promeut, mais au sens de met en valeur l'excellence.
On peut vraiment rencontrer des gens de partout qui, en fait, partagent ce même engouement, enfin, et ce même esprit de rassemblement, enfin, le point commun qu'on a tous ensemble, parce que, enfin, il y a des Bulgares, il y a des Italiens, il y a, je sais pas, des Grecs, des Tchèques, enfin, vraiment toutes les nationalités. Et en fait, la chose qui nous rassemble vraiment le plus, c'est l'Union européenne, quoi. C'est de se dire, ah ben en fait, on peut, avec des compagnies low cost, aller voir un ami pendant un week-end ou quelqu'un qu'on a rencontré une fois. Et ces échanges se font de plus en plus. Et donc, enfin, on voit qu'on est tous pareils, enfin, que notre génération, on a pas mal de mêmes centres d'intérêt. Qu'importe le pays d'où on vient. C'est aussi un peu voilà, pour ça qu'on a fait ce projet, pour vous montrer qu'on pouvait se rassembler, qu'on pouvait être ensemble, qu'on pouvait s'engager pour une meilleure Europe. Surtout.
Manuel Léon Franchou. Chantal Dassonville.
Malgré ce plan en croix, en réalité, l'hémicycle traverse les murs et fait fi des murs qui préexistent, ce qui est un peu leur discours à propos des bâtiments de l'Union européenne à Bruxelles. Et ils ont montré d'ailleurs au travers d'un reportage photographique et d'une enquête in situ combien parfois des cohabitations sont douloureuses, physiquement parlant, entre certains bâtiments et les quartiers qui étaient là avant. Combien aussi les symboles que sont la représentation, que sont ce qu'on appelle le seuil, l'accessibilité, la symbolique en quelque sorte d'un bâtiment, est gérée de manière très aléatoire au bout du compte, alors que quand on fait de l'architecture publique, ce qui est mon métier, inévitablement on se pose des questions sur ce que ça représente. On ne construit pas un théâtre comme on construit un hôtel de ville, comme on construit un stade de foot, comme on construit un bureau de police. Enfin, tout ça dit quelque chose à la collectivité à laquelle le bâtiment s'adresse.
Des cercles concentriques, des cercles où on s'assied, des cercles où on s'apaise, des cercles où on pense et où s'ouvre le dialogue.
Politique, segment d'espace où on ouvre, sépare ou rassemble, inclut ou exclut, fabrique de la transparence ou de l'opacité. Ce faisant, la politique est un acteur clé de l'organisation du monde qui nous entoure. Elle crée nous, les liens entre les individus.
L'agora, ce n'est pas des individus qui viennent proclamer des vérités. L'agora, ce sont des individus qui se parlent pour construire un vivre ensemble. Et ça, c'est essentiel. Et donc, souvent, y compris dans le rapport entre le réseau, ce qui est quand même au cœur de nos dynamiques contemporaines, la structuration du réseau et la structuration de la parole, qui devient parole collective, l'agora vient réinterpeller la capacité à structurer la parole collective. Et je trouve, et c'est aussi au cœur des enjeux actuels, en politique, dans les mouvements sociaux, j'ose aussi réinsister dans la sécurité sociale, dans les combats du vivre ensemble, tout ça est réinterpellé. Alors, quatre jeunes qui ont moins de 30 ans et qui ont réinterpellé ça, par la symbolique de l'agora, par la symbolique du cercle concentrique et par des espaces aussi, je veux dire, affranchir, mais affranchir en baissant la tête, ça aussi, c'était une symbolique importante. J'ai trouvé ça exceptionnel parce que ça résume, dans ce pavillon, les vraies interrogations du moment.
Rudy Tomate.
André Malraux a écrit exactement ceci, alors qu'on sait qu'il était attaché à la culture. Il était d'ailleurs lui-même ministre de la culture. Il disait « L'esprit donne l'idée d'une nation, mais ce qui fait sa force, c'est la communauté de rêves ». Et je pense que cet espace précis, pas seulement le pavillon belge, mais l'ensemble de cette biennale d'architecture, nous projette dans cette utopie et dans cette capacité à construire le lit commun de nos rêves.
Vous dites utopie, Rudy Demotte ?
Comme on le sait, le mot utopie renvoie inconsciemment à une part de rêve. Pas un rêve inaccessible, comme une étoile qui peut guider, mais étymologiquement, utopie veut dire le non-lieu, ce qui n'est le lieu de nulle part, parce que cette inaccessible étoile dans le ciel de Satan. Et quand on parle de eurotopie, c'est le lieu européen qui peut accueillir effectivement ce rêve commun et le réaliser. Je pense que Il n'y a pas d'alternative au dépassement des frontières. Les frontières ne sont là que pour être traversées. Elles ne sont pas là pour limiter les mouvements. Au XXIe siècle, alors qu'on appelait plus de spiritualité, pas au sens nécessairement transcendantal du terme, de réflexion sur soi-même, de recherche du sens, nous devons être capables de dépasser la ligne d'horizon des frontières.
Eurotopie est une exhortation à se libérer des mythes sous-jacents des peuples, des nations et du pouvoir. Eurotopie est un miroir de notre époque, qui accueille ce qu'il reçoit pour le réfléchir vers une autre destination. Eurotopie tend à repolitiser notre monde, considérant le néolibéralisme comme un levier plutôt qu'une donnée invariable. Eurotopie s'empare des outils existants pour définir un nouveau champ pour la lutte. Eurotopie est un rêve commun, la dernière utopie, l'espoir d'ambitions partagées.
Les frontières, c'est commencer par la frontière des préjugés. Et nous en sommes tous, que ce soit conscient ou inconsciemment, des victimes et pire, parfois des acteurs.
Eurotopie. 16e exposition internationale d'architecture à la Biennale de Venise 2018 jusqu'au 25 novembre. Aujourd'hui, première partie, le pavillon de Belgique, avec Roxane Le Grel, Chantal de Sanville, Johnny Léa, Rudy Demotte, Alta Creoli, Pablo Loas, Léon Drapeau, Manuel Léon Fanjoul, Pierre Ebeling. Eurotopie par Thierry Genicourt. Production Fédération Wallonie-Bruxelles, cellule architecture.
Retrouvez Par Oui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.